Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Glenn Cellier, journaliste chez Eurosport et bienvenue dans Mercredi Mercato. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur même, j'allais dire, d'accueillir Raphaël Bros qui va m'accompagner dans ce podcast. Bonjour Raphaël.
Salut Glenn, salut tout le monde.
Raphaël qui nous fait l'honneur de couper ses vacances pour venir un peu nous éclairer sur la planète Mercato.
C'est gentil. Exactement, ouais, c'est une petite pause qui fait plaisir. Pour l'instant, tout se passe bien, il fait beau, le mercato toulousain est plutôt intéressant et ravi de participer à cette émission qui, je l'espère, sera très intéressante.
T'as pas trop cramé, pourtant t'es dans une région, je suis surpris, t'as un beau temps pour le moment, ça va.
Oui, je me tiens à l'écart des rayons trop puissants.
Alors bien sûr, on vous rappelle que ce podcast est à écouter sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et que si vous voulez voir justement le teint de Raphaël et ma tête aussi, vous pouvez aller sur eurosport.fr. Bon, on va commencer direct et aller à l'essentiel, Raphaël. On va commencer par le sommaire. Le premier sujet, on va parler de Cristiano Ronaldo, qui est en conflit ouvert avec Manchester United, qui veut partir, ça vous le savez depuis pas mal de temps. Il y a eu des évolutions ces derniers jours, pas mal de choses. Il y a eu des rencontres entre Ronaldo et le dirigeant de Manchester. On va revenir là-dessus et on va surtout se poser une question. Est-ce que Ronaldo va en sortir grandi de toute cette histoire? Le deuxième sujet, Raphaël, c'est sur Chelsea.
Exactement, on parlera d'un autre cadeau anglais, Chelsea en l'occurrence, qui maintenant appartient à un autre propriétaire qui, on le pensait, allait être très ambitieux et très actif sur le marché des transferts et qui, pour le moment, se heurte à pas mal de déconvenues, ce qui a tendance à inquiéter Thomas Tuchel. Et on se posera la question suivante, qu'est-ce qui coince dans le mercato de Chelsea?
Et bien sûr, on terminera sur un troisième sujet avant le Mercat Quiz, sur le FC Barcelone et le cas Lionel Messi. On sait qu'il y a un retour qui est évoqué de Lionel Messi au FC Barcelone et on se posera une question, quel est l'intérêt pour tout ça? Avant de se lancer sur tout ça, évidemment, on va refaire la petite tradition estivale sur les petites informations mercato qui sont sorties ces dernières heures et qu'on avait envie de vous communiquer. Raphaël, je te laisse la main là-dessus.
J'espère que tu es prêt, Glenn, parce que j'ai trois très grosses informations à te faire partager en ce début d'émission. La première, elle concerne un grand nom du foot mondial, une pointure même, devrais-je dire, Luis Suarez. Alors, pas le Luis Suarez marseillais, mais bien l'original, l'Uruguayen. Il a annoncé cette nuit qu'il allait rentrer au pays, en Uruguay. Donc, comme tu le sais, il est libre depuis la fin de son aventure à l'Atlético de Madrid. Et à 35 ans, il a décidé de rejoindre son club formateur, le Club National, et d'y terminer sa carrière. Moi, je trouve que c'est chouette. Il boucle la boucle. Pour un joueur de cette pointure-là, c'est quand même pas anodin. Maintenant, je suis un petit peu triste de me dire qu'on ne le verra plus arpenter les surfaces de réparation européennes et planter sa dizaine, vingtaine, trentaine de buts par saison.
Moi, je suis convaincu qu'il aurait pu rendre de bons services à certains clubs européens. Mais comme tu le dis, j'aime bien moi ça. J'aime bien les anciens joueurs, surtout les grands joueurs comme lui, parce que c'est un super joueur, qui reviennent dans leur club après, leur club formateur. Je trouve ça toujours un peu classe.
En tout cas, c'est un mouvement qu'on va regarder et qui fait quand même plaisir, comme tu l'as dit. On va s'intéresser à un autre attaquant maintenant pour la deuxième information. C'est même une ancienne cible du PSG, puisque c'est Gianluca Scamacca. Alors, il quitte bien Sassuolo, comme prévu, mais il va à West Ham. Les Hammers ont déboursé 36 millions d'euros, plus 6 de bonus pour l'attirer. Lui, il a signé un contrat de 5 ans. Alors maintenant, c'est clair, la piste Scamacca, c'est terminé, on n'entendra plus parler de Scamacca au PSG. Est-ce que ça veut dire que le PSG ne cherchera pas à recruter un autre attaquant en plus d'Ekitike? Ça, l'avenir nous le dira, ça dépendra beaucoup des cas de Mauro Icardi et de Kalimuendo.
Ouais, je pense qu'ils vont quand même bouger parce qu'ils cherchent quand même quelqu'un justement un peu dans le profil de Scamacca, de jouer en pivot et de faire avancer le bloc pour jouer avec Kylian Mbappé. Donc, normalement, il avait le bon profil pour moi, je trouve, pour aider justement l'attaque parisienne dans ce but qu'a Christophe Galtier de jouer à deux devant. Donc je pense que ça va quand même un peu, ça risque de bouger un peu derrière et c'est une piste qui s'envole pour le PSG. Ouais.
Effectivement, et là je parle d'une piste qui s'envole pour un autre club français. Désolé Glenn, ça ne va pas te faire plaisir, ça ne fera pas plaisir non plus à nos auditeurs supporters du Stade Rennais. Longtemps suivi par le club breton, Kim Min-jae n'ira pas donc au SRFC mais bien à Naples. Ouais. Le défenseur sud-coréen s'est engagé avec le Napoli pour une durée de 3 ans, montant du deal 19,5 millions d'euros. Et une question qui reste, Umtiti, ça a capoté. Kim Inyae, il préfère l'Italie. Finalement, Rennes, ils vont le trouver, ce défenseur central.
Ouais, c'est compliqué. Il galère un peu et Bruno Genesio commence à souligner, il souligne depuis quelques temps, même maintenant, que ça commence à être vraiment un problème parce que la reprise de la Ligue 1 approche et qu'il n'a pas assez de défenseurs centraux pour faire vraiment, pour mettre son schéma en place. Il n'y a que Ludovic Baldé qui est disponible en ce moment, vraiment en termes de stature. Il y a un nom qui revient, on l'a vu, un défenseur belge qui est revenu récemment, Arthur Théâteux, défenseur de Bologne, mais ça a l'air un peu compliqué justement avec le club italien. Voilà, si ça se fait, ce serait pour moi plutôt une bonne pioche. Je trouve qu'il a un profil assez intéressant qui viendrait compenser ce que tu dis. Je trouve que le Sud-Coréen, j'avais bien envie de le voir en Ligue 1.
Écoute, on verra ce que ça donne pour le Stade Rennais. Et bah, je vais te laisser nous donner le privilège de commencer cette émission. Exactement. Avec la première rubrique.
On commence sur Cristiano Ronaldo, le cas Cristiano Ronaldo, évidemment, à Manchester United. Alors, tout le monde a suivi. Voilà, Cristiano Ronaldo veut partir de Manchester, on sait pourquoi, parce qu'il a envie de jouer la Ligue des Champions, que Manchester n'est pas qualifié en C1 cette saison et que lui a envie encore d'améliorer ses stats. On sait que c'est le meilleur buteur dans la compétition Rennes. Il a envie d'aller encore plus loin, de marquer encore un peu plus l'histoire, ce qu'il a déjà fait à plusieurs reprises. Voilà, pour rappel, Cristiano Ronaldo a 37 ans. Il a encore une année de contrat avec Manchester United. Ça, c'est le bilan. Le souci, c'est qu'il veut partir. Il l'a dit. L'autre problème, c'est qu'à Manchester, on n'a pas envie de le laisser partir. Il y a Erling Ten Hag, le nouveau entraîneur de Manchester, l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam, qui, pour lui, Cristiano Ronaldo rentre dans ses plans. Il compte sur lui cette saison. Et on le sait, parce que l'année dernière, il a encore été très productif pour un joueur de cet âge-là. Il met 24 buts en 38 matchs, toutes compétitions confondues. 6 buts en 6 matchs de Ligue des Champions. Donc on sait, même si il y avait un vrai débat sur lui l'année dernière, à savoir est-ce qu'il était performant, est-ce qu'il pesait pas plutôt sur le collectif de Manchester, est-ce que c'était pas de temps en temps un boulet pour ce que voulait mettre en place Manchester. Mais en tout cas, il était prolifique et ça pèse. Et moi, ma petite question, le petit truc qu'on se demande là un peu, Raphaël, c'est bah voilà, est-ce que ça va pas ternir un peu son image? Est-ce que Ronaldo risque pas, comment il va en sortir grandi de ça? Moi, pour moi, mon avis personnel, c'est qu'il fait une erreur. Je trouve ça très bien d'aller voir la Ligue des Champions. Je trouve ça très bien de vouloir continuer de jouer en Ligue des Champions, de vouloir continuer de marquer l'histoire. Mais là, il est à Manchester. Il avait fait un retour qui était assez sympa, je trouvais. En fin de carrière, il a 37 ans. Il revient dans le club qui l'a lancé au plus haut niveau. Je trouvais qu'il y avait un truc un peu classe de la part de Ronaldo. Le voir aller au bras de fer à son âge, vu ce qu'il a montré pour aller dans des clubs, on entend parler, voilà, on va en entendre parler, on va en reparler sûrement tout à l'heure. Il y a plusieurs clubs qui étaient évoqués, l'Atlético Madrid, le Bayern Munich. Alors ça, le Bayern Munich, c'est mort, évidemment, Oliver Kahn l'a dit, et c'est clair et net, c'est fini. Et aussi le PSG, à un moment, ça aussi, c'est fini. En gros, pour moi, il y avait autre chose à faire. Ça aurait été très bien qu'il continue. Je ne comprends pas cette idée de Ronaldo d'aller au bras de fer. Et l'idée, Raph, là-dessus, après je te laisse la main. Ça m'a surpris de le voir débarquer hier au centre d'entraînement de Manchester avec Mendes, son agent historique. La photo de lui arrivant au centre d'entraînement avec Mendes à côté. En gros, ça veut clairement dire, moi je veux partir, je montre clairement que j'ai plus envie de jouer là. Je pense qu'à son âge, il y avait autre chose à faire.
Oui, je suis d'accord. Cette image, elle est dommageable. En tout cas, est-ce que Ronaldo sortira grandi de tout ça? Je ne pense pas. Ouais. Est-ce que ça ternira pour autant réellement son image? Ça, on le saura à court terme. En tout cas, ce feuilleton, il commence à être un petit peu longué, un petit peu gênant. Puisque, comme tu l'as dit, on était tous ravis de le voir retourner à Manchester United il y a un an. Il y a eu un réel engouement de la part des fans de Ronaldo, de la part des suiveurs de la Première Ligue, de la part évidemment des supporters de Manchester. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. Il fait sa saison, il fait une très bonne saison.
Il met 18 buts en Première Ligue.
Et maintenant, qu'il n'ait pas envie de jouer la Ligue Europa, sachant qu'il s'appelle Ronaldo et qu'il aspire au meilleur, ça se comprend. Néanmoins, là, c'est un peu trop. C'est un peu trop, ça dure un peu trop, cette histoire. L'image avec Jorge Mendes au centre d'entraînement, c'était pas nécessaire non plus. Disons que ça ne va pas vers un sens d'un apaisement.
Non.
Et d'une volonté de renouer le dialogue. Maintenant, moi, je pense qu'il devrait se faire une raison, Cristiano Ronaldo. Il fut un temps où tous les grands clubs étaient à ses pieds, étaient prêts à faire beaucoup d'efforts pour le faire venir. Ce temps-là, il est révolu. Ce temps-là, il est désormais passé, puisqu'il est trop âgé, parce qu'il est trop cher. et parce qu'il impose d'être le centre du projet, et les clubs qui pourraient éventuellement avoir la surface financière de l'accueillir ne le veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas faire de lui cet homme-là. Et on l'a vu avec le Bayern Munich, enfin, il s'est fait recaler par le Bayern Munich, il s'est fait recaler plus ou moins par l'Atlético de Madrid. Ça devient un peu gênant, quoi. C'est Cristiano Ronaldo. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il se mette dans sa saison. Il y a quand même quelque chose de beau à aller chercher avec Manchester United. Il y a un nouveau projet qui se met en place. Il peut tenir un rôle important là-dedans. Et OK, il n'y a pas de Ligue des Champions, mais il a gagné un paquet de fois déjà. Pourquoi pas se dire, bon, on va essayer de remettre Manchester United sur le devant de la scène. Ça peut être un beau challenge aussi.
Ouais, je trouve ça, mais je suis totalement d'accord. Je trouve que ça aurait été plutôt... Elle est plutôt classe de sa part de dire ok, on n'a pas réussi, parce qu'il faisait aussi partie du projet l'année dernière, c'est aussi lui, même malheureusement, même s'il fait sa saison, si Manchester n'a pas réussi à aller en Ligue des Champions, il y est aussi en partie responsable, même si pour moi c'est l'un de ceux qui se met en avant l'année dernière et qui sort d'un bel exercice. Mais c'est un peu ce que tu dis aussi, je trouve que j'ai peur que le feuilleton dure, c'est à dire que je pense que là ce qu'il a fait en arrivant au centre d'entraînement avec Mendes, ça montre clairement qu'il n'a pas compris justement qu'il n'y avait personne sur lui et qu'il n'allait pas partir. Et je pense que ce feuilleton va durer tout l'été. Et ça, je trouve ça dommage pour lui, dommage pour son image. Parce qu'en plus, quand j'entends les noms, il y a Chelsea aussi qui est dedans. Donc on l'a dit, Bayern, Oliver Kahn l'a dit, bah, ça ne rentre pas dans la philosophie du Bayern. On le comprend, moi je comprends tout à fait. Et le dernier club qui est assez évoqué en ce moment, c'est l'Atlético Madrid. Alors son président hier, dans les derniers jours, a dit que pour lui, ce n'était pas réalisable et qu'il ne savait pas qui avait sorti cette info avec l'Atlético Madrid. Moi, honnêtement, voir Ronaldo à l'Atlético Madrid, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand même l'icône du Real Madrid pendant des années. C'est celui qui est le meilleur buteur du club encore. Aller chez le club rival dans le derby ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui, ça me semble, c'est un non-sens pour moi. Ça ne me paraît pas logique. J'ai peur un peu que Ronaldo s'enferme dans un truc, dans une volonté qui ne lui fait pas forcément honneur.
Ça ressemble à un caprice, ça ressemble à...
C'est pas la première fois.
C'est pas la première fois, sauf que ça a changé, comme je disais précédemment. Ouais. Maintenant, la donne a changé et les grands clubs n'ont pas forcément envie de le recruter. C'est la même chose que Neymar. Hein. Bon, il en était question la semaine dernière dans l'émission. C'est très très compliqué de faire venir un joueur comme Neymar désormais. Et en tout cas, les clubs n'ont plus envie de faire en sorte que ces mecs-là soient au cœur de leur projet, forcément. Maintenant, il y a une autre question, c'est est-ce que Eric Ten Hag, puisque c'est lui maintenant qui tient les clés du camion, va réussir à convaincre Cristiano Ronaldo de rester, d'en faire une clé de voûte du projet. Lui, il l'a dit, il l'a répété, il veut que Cristiano Ronaldo reste. Est-ce que ça pourra coller avec l'identité de jeu qu'il souhaite mettre en place à United, avec, c'est-à-dire une équipe bon, qui est bien sûr extrêmement proactive, balle au pied, mais surtout impliqué dans la récupération du ballon et dans le contre-pressing. Est-ce que c'est quelque chose qui plaira à Cristiano Ronaldo? Est-ce qu'il acceptera de faire tous ces efforts-là et de se mettre vraiment au service du collectif? C'est une autre question qui se pose. Moi, je serais curieux de voir ça quand même. Et la saison redémarre très vite. Hein. On signale que pour une fois, la Première Ligue redémarre très très tôt, en même temps que la Ligue 1. Donc on va très vite savoir si Cristiano Ronaldo a tourné la page et veut débuter cette saison avec United, ou s'il continue à être dans un bras de fer un peu malsain, un peu étonnant, et qui, à mon avis, aboutira à rien de très, très probant.
Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que j'aurais envie de voir ça, et tu as raison, la saison reprend très vite, parce qu'il y a la Coupe du Monde, évidemment, en fin d'année, et que tous les championnats ont été avancés cette année. On va partir sur un deuxième club anglais, Raphaël, évidemment, Chelsea.
Oui, on reste en Angleterre, on reste en Première Ligue et on va parler de Chelsea qui a tourné, et là aussi, qui a ouvert plutôt un nouveau chapitre de son existence fin mai, début juin, avec le rachat du club par un groupe d'investisseurs mené par l'américain Todd Boehly. C'est fini pour l'ère Roman Abramovich. C'est aussi, on s'est dit, terminé pour les soucis liés aux sanctions liées à la guerre en Ukraine, puisque celles-ci ont beaucoup, beaucoup pénalisé Chelsea en deuxième partie de saison dernière. On s'est dit, ça y est, Chelsea va revenir sur le devant de la scène avec un mercato très ambitieux, beaucoup de moyens déployés pour redevenir une place forte du championnat anglais. Bon, ils étaient troisième la saison dernière, mais là, ils doivent viser le titre. Enfin, c'est normal pour un club comme celui-ci. Également essayer de redevenir un des acteurs majeurs de la prochaine Ligue des Champions. Et un mois et demi plus tard, on se rend compte que finalement, ce mercato des Blues, il est, comment dire, plutôt décevant pour rester poli. Ok, il y a eu des arrivées intéressantes. Outre les retours de prêt, on peut noter bien sûr le recrutement de Kalidou Koulibaly pour 38 millions d'euros. C'est une très belle recrue. L'arrivée aussi de Raheem Sterling pour 56 millions d'euros, un petit peu plus que cela. C'est aussi un choix très fort et très intéressant. Mais on ne compte pas le nombre de pistes qui ont capoté. nombre de transferts qui n'ont pas pu se faire, comme Rafinha par exemple, qui a finalement décidé d'aller au FC Barcelone. Et il y a aussi, et ça on en parlera un peu plus en détail, le nombre de joueurs qui sont soit déjà partis, soit désireux de s'en aller. Au milieu de tout ça, on a un entraîneur, qui est Thomas Tuchel, qui commence à s'agacer, à s'inquiéter, et qui a envoyé un signal d'alerte à ses dirigeants il y a quelques jours, en leur disant notamment « Nous ne sommes pas assez compétitifs ». Alors le message est clair, il faut vraiment se renforcer, il faut aller vite désormais. Pourquoi finalement ça coince autant à Chelsea ?
Alors moi je pense qu'il y a plusieurs pistes là-dessus, mais l'une principale que je vois c'est évidemment liée au rachat du club. On sait que le rachat effectif a été fin mai. En gros, Roman Abramovich a passé la main à ce moment-là, tu l'as dit tout à l'heure, à notamment Todd Boehly. Qui est un Américain, qui ne connaît pas forcément toutes les ficelles du football. Et pour moi, le facteur déterminant dans cette histoire, c'est notamment qu'il y a eu beaucoup de changements à la tête de Chelsea. On l'a vu, il y a eu notamment des départs marquants. Je pense à Marina Granovskaya, qui était, si vous voulez, la boss notamment de Chelsea sur la partie sportive et qui gérait notamment aussi beaucoup tout ce qui était transfert pendant des années, parce qu'elle est au club depuis le tout début du rachat de Roman Abramovich, donc depuis 2003. C'était quelqu'un qui était très, très installé. Et l'autre départ, c'est évidemment quelqu'un qu'on connaît très bien dans le football français, mais dans le football mondial, c'est Peter Cech, qui était là le directeur conseiller technique de la performance et qui était aussi là pour épauler Thomas Tuchel au quotidien et notamment dans tout ce qui était piste de recrutement. Je pense que ces deux départs-là, qui n'ont pas été compensés, sont pour moi la clé dans ce mercato, parce qu'on le sait, Todd Boehly pour le moment assure une grande partie, justement il gère avec Thomas Tuchel, en gros c'est les deux hommes forts à Chelsea. Le rôle de Thomas Tuchel a augmenté, il y a eu une très bonne chronique la semaine dernière sur un titre de Philippe Auclair là-dessus. Le rôle de Thomas Tuchel est devenu plus important, mais visiblement ça colle pas, et notamment Todd Boehly, c'est quelqu'un qui est très investi, qui connaît le sport parce qu'il était dans le baseball, il a été longtemps, c'est quelqu'un qui a réussi dans le baseball, mais dans le monde du football pour moi c'est encore un novice. Et là je trouve que on le voit justement durant ce mercato, il avait peut-être besoin d'être épaulé durant ce mercato par un bon directeur sportif, par quelqu'un qui connaissait. Et du coup je trouve ça un peu dommage d'avoir laissé partir, parce qu'on sait notamment Marina Granovskaya avait proposé de continuer un peu, de donner quelques filer un coup de main pendant ce mercato. Je pense que ça aurait été utile vu son carnet d'adresses, vu son expérience. Et là, on le voit. Je trouve qu'il y a évidemment, on le sait, il y a eu Robert Lewandowski qui a été évoqué à Chelsea. Mais ça, pour moi, c'était plus une tentative. Il y a eu Ousmane Dembélé, c'est pareil, ils ont tenté le coup. Mais sur des cas, notamment sur... j'avais pensé à Jules Koundé, qui était soi-disant proche de signer à Chelsea, ou tu l'as dit, et qui est parti sur Barcelone. Et je pense évidemment à l'autre que tu l'as cité tout à l'heure, c'est Rafinha. Pour moi, là-dessus, ils ont peut-être fait un peu preuve d'amateurisme, j'allais dire.
Oui, c'est sûr que le rachat a beaucoup influé. Tu as parlé, ce sont des personnalités qu'on ne voit pas forcément, notamment Marina Granovskaya, qui ne se mettait absolument jamais en avant. Mais ce sont des personnes de l'ombre qui font un travail très, très, très important pour assurer la pérennité du club d'un point de vue sportif. Et tu as raison d'évoquer cela. On parlait de Jules Koundé, il y a aussi la piste Presnel Kimpembe qui paraît très compliquée. Nathan Ake, ça ne va pas le faire non plus. A priori, Wesley Fofana, on a lu ça aussi ce mercredi. Pourquoi pas, mais Leicester ne laissera pas partir comme ça. Donc il y a cette volonté de chercher des renforts défensifs. Et tous ces dossiers, on a l'impression qu'ils sont vraiment compliqués. Et puis il y a un autre élément à mettre en avant, c'est le poste de numéro 9. Donc il y a Romelu Lukaku qui est retourné en prêt à l'Inter Milan. D'ailleurs, on pourrait s'interroger. Hein. C'est un joueur qui est venu contre 115 millions d'euros il y a un an. Et il repart un an plus tard en prêt, prépayant certes, mais bon,
c'est un flop,
curieux. Ouais. Voilà. Il y a Timo Werner qui aimerait récupérer un peu plus de temps de jeu ailleurs, qui va jouer en numéro 9 à Chelsea si ce transfert se concrétise aussi. J'ai regardé dans l'effectif, il y a deux purs neufs qui sont de retour de prêt, c'est Michy Batshuayi et le jeune Armando Broya qui revient de Southampton. Ça peut être des joueurs de rotation, difficile d'en faire des titulaires. On sait que Thomas Tuchel aimait beaucoup mettre Kai Havertz en faux numéro 9. Ça n'a pas toujours été incroyable. Ouais. Et c'est là qui s'inquiète vraiment, c'est qui va jouer en pointe. Et c'est un vrai chantier pour Chelsea.
Il y a deux débats, c'est ce que tu dis. Il y a le rôle d'avant-centre et le rôle de défenseur, où ils ont besoin, pour moi, Tuchel le dit souvent, ils ont besoin de recruter encore en défense. Même si Koulibaly, pour moi, c'est une super recrue, mais ils ont encore besoin de se renforcer. Et c'est vrai que pour le moment, ils coincent. Ils coincent alors qu'ils ont des pistes, mais des pistes qui étaient réalisables. Parce qu'on sait, par exemple, Jules Koundé, C'est quelqu'un qui finalement va partir. C'est pareil sur Rafinha. Alors c'est un autre poste, mais c'est pareil pour Rafinha. Donc il y a quelque chose où ils sont, ils manquent de feeling, j'allais dire, sur certains trucs. Et je pense que c'est un manque d'expérience. Et que c'est peut-être aussi le fait de ne pas avoir su s'épauler pour ce mercato qui est arrivé en effet très tôt après la vente du club.
Oui. Et on n'a pas parlé d'un autre point, c'est que outre les arrivées et les départs, il y a aussi les prolongations de contrat. N'Golo Kanté n'a toujours pas prolongé, son contrat se termine dans un an. Jorginho, pareil. Donc ce sont d'autres éléments. Peut-être que justement les dirigeants travaillent sur ces dossiers en priorité dans l'ombre, on ne sait pas. C'est une possibilité. Et en tout cas, voilà, les cadors anglais ont plus ou moins fini leur mercato. Arsenal notamment semble vraiment affûté. Manchester City, Liverpool, ça n'a pas énormément bougé, mais c'est déjà pas mal. Tottenham aussi. Et donc c'est pour ça que Thomas Tuchel s'inquiète. Et d'ailleurs, en parlant de Thomas Tuchel, moi j'ai l'impression qu'on retrouve le Tuchel de la fin d'aventure au PSG de sa troisième année, celui qui critiquait ouvertement le mercato, qui envoyait des petits taquets à Leonardo et qui finalement a été démis de ses fonctions juste avant Noël. Attention à ce que l'histoire se répète pas trop quand même.
Ouais, je suis d'accord. Tu sens qu'il s'agace de plus en plus et voilà, on retrouve en effet ce qu'on n'avait pas trop vu avant, je trouve, à Chelsea, le Thomas Tuchel justement un peu sur les nerfs, j'allais dire, à Paris. Ça, je trouve qu'on le et tu l'as dit, on l'a notamment vu ces derniers jours avec l'histoire entre Azpilicueta et Marcos Alonso, qui sont, on n'en a pas encore parlé, mais qui sont très convoités par le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui a déjà réussi à récupérer Christiansen libre, parce qu'il n'a pas prolongé à Chelsea et qui est donc arrivé à Barcelone. Ça, c'est pareil, c'est un départ qui peut peser aussi à Chelsea. Il aurait pu rendre des services vu ce qui se passe en ce moment. Et ça, ça commence à agacer Tuchel de voir aussi le Barça venir régulièrement piquer quelques joueurs, que ce soit le joueur de leur effectif ou des joueurs qui étaient ciblés par le club londonien.
Effectivement, il y a cette petite guéguerre Chelsea-Barça sur plusieurs dossiers. Ouais. Et d'ailleurs, Thomas Tuchel a fait une réflexion à ce sujet en conférence de presse. Donc, on va voir ce qu'il en est. En tout cas, pour l'instant, le mercato du FC Barcelone est beaucoup plus concluant que celui de Chelsea. C'est clair et net. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire une belle transition. Parce que je pense qu'on va se diriger gentiment vers notre troisième sujet qui concerne Barcelone et surtout Lionel Messi.
Ouais, quelle superbe transition. Tu me passes la balle de manière magnifique. Tout simplement, on va parler de Messi au Barça. Alors, Messi au Barça, pourquoi on a envie d'en parler? Tout simplement parce que ces derniers jours, ça s'est un peu excité en Catalogne sur le cas de la Pulga. Le septuple d'Ballon d'Or a été évoqué notamment par Juan Laporta, le président du Barça, pour parler, en gros, Laporta a dit, nous, on n'a pas envie que l'histoire avec Messi soit terminée, on aimerait bien, en gros, que Messi revienne. Il a dit, c'est un peu notre responsabilité de voir Messi revenir pour pas que l'histoire termine un peu en nœud de boudin, comme elle avait fini un peu l'année dernière. Quand Messi était parti, on s'en souvient tous, évidemment, en pleurant lors de l'annonce de son départ, où il est parti finalement au PSG. Alors voilà, il y a une question que j'ai envie de te poser, Raphaël, c'est Messi au Barça, ça sert à quoi de le voir revenir? Est-ce que pour toi, ça a un intérêt?
Franchement, en découvrant ces rumeurs-là dans la presse espagnole et surtout catalane, j'étais très circonspect. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. L'intérêt pour Messi, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un, sincèrement. Pour le Barça, encore moins, et c'est ce qui va nous intéresser encore plus, c'est que le FC Barcelone, ça y est passé à autre chose. Normalement, la rupture a été très douloureuse il y a un an. Comme tu le disais, il y a eu ces larmes, les supporters complètement désabusés, dépités, et un joueur qui lui-même n'avait pas vraiment envie de partir, mais même pas du tout, et qui est parti au PSG un peu par défaut, quelque part, ouais. Et qui a eu beaucoup de mal à s'adapter à son nouvel environnement d'ailleurs. Maintenant, ça y est, ils sont passés à autre chose. Le FC Barcelone a mis en place un entraîneur qui, a priori, est là pour travailler sur la durée, bâtir sur la durée. Xavi, ce n'est pas un intérimaire, ce n'est pas un faire-valoir. Il y a un mercato qui est très ambitieux, qui est mené également depuis cet été, même l'hiver dernier, où on sent que ce sont des joueurs qui sont là pour s'inscrire aussi dans un projet au long cours. Et à partir de là, et surtout d'ailleurs dans le secteur offensif, bien sûr que Messi aurait sa place dans l'équipe actuelle, mais il commence à y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans ce secteur offensif-là. Et de ce point de vue-là, donc, je ne vois pas trop la pertinence de faire revenir Lionel Messi dans un an. Rappelons qu'il lui reste qu'un an de contrat à Paris, d'ailleurs. Et voilà, moi, je ne comprends pas. Ce serait un grand retour en arrière, quelque part, qui ne serait bénéfique à personne, sauf aux personnes qui vendent des maillots. Quoi. Parce qu'effectivement, d'un point de vue marketing, ce serait très intéressant. Mais sinon, sportivement, je ne suis pas sûr que l'apport à long terme soit très intéressant.
Non, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut rappeler que Messi, c'est, comme tu l'as très bien dit, il lui reste un an de contrat, donc il sera libre en juin 2023. Évidemment, cette offre, on va dire, du Barça, cette envie du Barça, c'est qu'à partir de l'année prochaine. Et on rappelle que Messi, il a quand même 35 ans. Donc, c'est ce que tu dis. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le Barça est en train de construire un projet. Et je trouve ça assez logique. Ils font des efforts, ils font des concessions aussi qui vont peut-être se payer sur le long terme. C'est-à-dire que, en gros, ils sont en train de trouver des leviers. Ils ont trouvé des leviers pour se libérer du cash, assainir un peu la situation financière du club pour essayer justement de pouvoir recruter, de pouvoir se renforcer, de pouvoir remodeler leur équipe pour justement créer une nouvelle dynamique, j'allais dire, avec Xavi. Et je trouve ça, alors financièrement, j'attends de voir ce que ça donnera sur le long terme, mais en tout cas, sportivement, je trouve ça pas mal ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de trouver des joueurs qui, pour moi, leur mercato les renforce clairement. Je suis vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année parce que je trouve qu'il y a pas mal de bonnes recrues, des trucs assez logiques, des trucs, des paris que j'aurais tenté, notamment Lewandowski, évidemment. Rajouter Messi dans un an, donc c'est-à-dire il aura une année de plus, je vois pas, je comprends pas. Surtout de la part de Xavi, parce qu'on sait que Xavi, visiblement, d'après la presse catalane, a aussi poussé à ce que le Barça s'active à essayer de faire revenir Messi l'année prochaine. Ouais, je comprends pas, on sait que Xavi, je sais que Messi, c'est un joueur qui, il faut jouer aussi pour lui, il faut lui faire sa place, il faut que le projet soit autour de lui, même à 36 ans, ce sera le cas. On va pas mettre Messi on va pas faire venir Messi pour faire des bouts de match, notamment s'il revient au FC Barcelone. Donc, je ne comprends pas, ça casserait complètement cette dynamique qui est en train d'essayer d'être créée au Barça. Le message envoyé est aussi bizarre, je trouve, de la part des joueurs, même si évidemment Messi, c'est une institution au Barça, ce n'est pas n'importe qui. Mais je ne comprends pas, je comprends pas du tout cette idée. Pour moi, c'est, à part le côté marketing, qui est en effet, qui est en effet logique, c'est-à-dire que si Messi revient, on sait que les ventes vont être vendues. Et attention, je ne dis pas que Messi est un joueur fini, je suis convaincu que Messi va faire une très bonne saison cette année au PSG et que ces 11 petits buts qu'il a marqués l'année dernière avec Paris, il va les exploser cette année parce qu'il aura pris le plou-pou à Paris. Ce n'est pas illogique que l'année dernière il ait galéré, c'est quand même un joueur qui avait joué qu'au Barça depuis le début de sa carrière, qui était bien dans son environnement, c'est une maison qu'il connaissait, c'était chez lui. Il a dû se réadapter avec des nouveaux joueurs, avec un Mbappé qui a pris une nouvelle dimension. C'était évidemment un peu compliqué. Donc, je suis convaincu qu'il fera une meilleure saison cette année avec le PSG. Je suis convaincu qu'il n'est pas fini. Mais, en revanche, je ne comprends pas cette logique d'aller retourner au Barça, notamment de la part du FC Barcelone. Et c'est pareil, mais si je trouve que s'il avait un dernier pari à faire, je pense qu'il y avait d'autres projets que je trouve très sexy pour lui. J'en sais rien, aller enfin jouer en Argentine. Qui serait quand même pour un mec, pour un garçon qui, on le rappelle, qui est parti très tôt à la Masia pour aller au Barça, dans un contexte un peu particulier, et qui n'a donc jamais vraiment joué en Argentine. Et ça, je trouve que ce serait. Je trouverais ça plus classe que de retourner au Barça où je comprends pas la logique.
Donc, clairement, l'avenir de Messi, selon moi, ne passe pas par Barcelone. Il lui reste donc une saison avec Paris. Potentiellement, peut-être qu'il prolongera d'un an si vraiment ça se passe super bien l'année prochaine, qu'il a encore les jambes, pourquoi pas. Mais à moyen, long terme, je pense que sa fin de carrière se situe de l'autre côté de l'Atlantique. Tu parlais de l'Argentine, pourquoi pas la MLS aussi. On sait qu'il y a des touches et ça pourrait être vraiment une belle expérience pour lui. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire comme Thierry Henry il y a une dizaine d'années maintenant, quand il était sous contrat avec les New York Red Bull. Il est revenu en janvier-février, il a fait une courte pige à Arsenal. Tout le monde était encore sous le charme, évidemment, parce que c'est une légende du club. Il a mis quelques buts, il a joué quelques bouts de match. Ça lui a permis de ne pas trop couper pendant que la saison en Amérique du Nord a été sur off. Et il est retourné ensuite reprendre ses activités en Amérique du Nord. Pourquoi pas faire comme ça? Mais ce serait juste un petit bonus pour faire plaisir à tout le monde. Ok, si c'est encadré. Si c'est vraiment faire revenir Messi pour un an, deux ans, on ne sait pas trop dans quel but.
Pour une opération marketing. Je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que ce petit bonus serait une bonne idée. Alors voilà, on en a fini avec le Mercato. Mercredi Mercato, évidemment, l'émission, mais pas totalement. Parce qu'on a réglé le cas de l'OM Messi, on a réglé le cas de Ronaldo, on a réglé le sujet Chelsea. Et maintenant, on va attaquer le Mercaquiz avec le fameux, l'excellent Quentin Guichard. Celui qui vient d'une région, la plus belle région du monde, qui a la chance de venir de la plus belle région du monde, comme d'autres qu'on ne citera pas. Voilà, bienvenue Quentin.
Salut messieurs, comment vous allez?
Bien, on est chaud.
Je vous sens chaud.
On est chaud pour s'humilier.
Salut Quentin. Salut, près de mon côté
c'est
aussi.
Premier, moi.
C'est une première pour vous deux, je crois. C'est inédit dans ce Merca Quiz. Alors, je vais vous rappeler les règles, même si vous les connaissez par cœur, parce que vous êtes des fidèles. Je sais que vous êtes des fidèles tous les deux de Mercredi
Mercato. Il est stressé, Raphaël. Je
c'est
vois
vrai que
je
sens de la fébrilité du côté de Raphaël.
Ah, moi, je vois tout là-dessus. De toute façon, si j'ai accepté de participer à l'émission, c'est uniquement pour le Merca Quiz. Hein.
Ça, c'est ce que j'avais cru comprendre. C'est ce qui se dit dans les couloirs.
Surtout, si tu sais que si tu perds, tu vas être humilié à vie. Donc, être chambré par tout le monde.
Alors, le principe de Mercredi Mercato, c'est très simple. Je vais vous dérouler la carrière d'un joueur. Le premier de vous deux qui découvre l'identité du joueur remporte le Merca Quiz. Voilà, ça tient en une phrase.
C'est un très beau concept. Il faut que j'y réfléchisse.
Quand ça tient en une phrase, c'est que c'est un très beau concept.
Ouais, on voit que tu l'as travaillé, surtout.
Ouais, j'ai travaillé.
C'est pas la première fois et tu le fais très bien.
Et alors, nouveauté, la fameuse règle 2022. Avant même que je ne donne le premier indice, vous pouvez me soumettre un nom. Un nom chacun.
Romain Danzé.
Alors, voilà. Deuxième précision, ce ne sont que des joueurs en activité. Même si je sais que dans ton cœur, Glenn, Romain Danzé, il sera en activité pour l'éternité.
Exactement.
C'est bon pour vous, les amis ?
Alors, hop, on est parti.
Moi, c'est bon.
Qui veut commencer ? Qui veut donner son nom en premier ?
Raph.
Ouais, ok. Alors, moi, j'ai profondément réfléchi. Je pense que je tiens une piste.
D'accord.
C'est un joueur qui a marqué des clubs qui nous sont chers à nous trois. Un joueur assez vaillant et qui a mis beaucoup de beaux buts, Firmin Mubele.
Oh, joli, très joli, mais c'est pas ça du tout. Mais bien tenté.
Bah, moi je dirais bien Cristiano Ronaldo.
Ah, alors là tu me prends vraiment pour une pipe.
Ça
alors là, je le prends très mal.
Tu travaillais juste à côté de moi toute la journée, j'ai essayé de tricher toute la journée.
J'ai vu, mais ça te ressemble bien.
Bah, exactement, bon, c'est pas Cristiano. J'ai vu Ronaldo à un moment.
Malheureusement, c'est pas Cristiano. Alors, vous êtes prêts ?
On est chaud
là. Je ne les tiens plus, c'est parti. Dès mon plus jeune âge, j'aime le football et jouer avec mon frère Arthur et nos voisins. Je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants. Mon idole est Andrei Shevchenko, gloire du Milan et de l'équipe nationale d'Ukraine. Je débute au Mladost Podgorica.
Ouais, t'as pris un club, on ne dit pas de l'Est.
À l'âge de 16 ans, je veux arrêter de jouer au football. Mon père parvient à me convaincre de continuer. Je rejoins le Partizan Belgrade à 14 ans, où je suis formé et très vite remarqué par le staff technique.
Aleksandar Mitrovic.
À partir de mars 2007, je joue pour l'équipe A du Partizan. Je marque 18 buts en 54 matchs. Je signe notamment un doublé en Coupe UEFA face au Zrinjski Mostar à seulement 17 ans.
Stevan Jovetic.
Crucifié.
Il a dit qui ?
Il a dit Stevan Jovetic.
Mais c'est de la... T'en avais dit que tu prenais un breton.
Alors, il est peut-être breton.
C'est vrai,
il a peut-être du sang breton dans ses veines. C'est une...
J'avais aucune chance.
Ah ouais, là, c'est...
Là, je
là il n'a pas failli à sa réputation, Raphaël.
Ah là, c'était clairement pas possible.
Voilà.
Félicitations, Raphaël.
C'est clair, net et sans bavure. Donc, t'as trouvé...
Oui, il en restait un paquet.
Il en restait un paquet, ouais.
Tu t'es embêté à écrire long pour pas grand-chose.
À peine à ses 17 ans.
Non, mais on avait dit pas de l'Est.
Bah écoute, l'Est ou l'Ouest.
Il y a un collage sur l'Est.
C'est un petit peu pareil. Hein.
Ah, bah écoute. Bon, félicitations, bah, voilà. Raphaël.
Bah, bravo.
Je m'incline.
Merci,
humblement.
Merci à tous.
Alors je pense que t'as coiffé tout le monde sur le poteau. Hein, parce que là.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste, Raph ?
Alors déjà, Podgorica, ça m'avait mis la puce à l'oreille.
Non, ouais. Moi je pensais que c'était le fait qu'il aimait foot. Quand il était jeune.
le fait qu'il aimait Shevchenko. Shevchenko, je me suis dit, bon, sans doute un neuf.
Ouais.
Et profil qui a arrêté le foot, qui s'est remis un petit peu contrarié. Voilà, j'ai tenté Mitrovic, puisque Partizan Belgrade, ça sonnait mieux. Mais finalement, non, j'ai vite repris ce plan B en tête.
Jovetic.
Ça aurait pu être Arthur Milovic.
Alors, est-ce que de tête, tu peux nous citer tous ces clubs, tiens?
Ah oui.
Parce que maintenant, il fait le malin.
Tu as fait le malin, c'est
vas-y,
clair.
Je trouve au bout de deux secondes.
Bon, ben après, il est en Italie.
Ouais.
Il semble qu'il est passé, je ne dis pas de bêtises, par la Fiorentina.
Ouais.
Et l'AS Monaco, bien évidemment.
Alors, avant la Fiorentina... Ah non, après la Fiorentina, il va à Manchester City, quand même.
Oui, c'est vrai.
Ouais, on l'a tous oublié.
Ouais.
Et ensuite, il va à l'Inter Milan. On l'a tous oublié. Mm-hmm. Et ensuite, il va au Séville.
C'est
FC
beau.
Séville, on l'a tous oublié.
Ouais.
Et ensuite, il va à Monaco.
Magnifique.
Voilà. Là, on l'a un peu moins oublié.
On l'a un tout petit peu moins oublié.
Et là, depuis juillet 2021, il joue au Hertha Berlin. Et connais-tu sa particularité, Raph ?
Tiens, parce que là, tu fais le malin. Mais vas-y.
Il fait partie d'un club très fermé, de 3 joueurs.
Moi, je l'ai. J'ai rien.
Alors, il est avec Florine Raducciu.
Oui, Raducciu.
Et Raducciu, bien sûr.
Bien sûr. Le fameux.
Et Christian Poulsen, le seul joueur à marquer au moins un but en championnat dans les 5 meilleures ligues européennes.
Et voilà, comme quoi.
Voilà, comme je crois qu'on ça, va c'est s'arrêter. Une petite anecdote à sortir dans les petits apéros dînatoires.
Je retiens là-dessus, voilà. Sur cette belle victoire de Monsieur Raphaël. Merci à tous. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Alors, je ne sais plus qui animera l'émission, mais évidemment, ce sera
Julien Pereira et...
Ah bah, c'est peut-être moi, avec
Julien. Et toi-même.
Et Glenn Seigneur.
Voilà. Et bien, à la semaine prochaine, alors. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Raphaël, d'avoir interrompu tes vacances pour venir. Et merci, Quentin. Et évidemment, merci, Sébastien Petit, pour la réalisation.
Salut tout le monde. À très vite. Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.